5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous. Alors l'actualité du ciel et de l'espace ce mois-ci, eh bien c'est d'abord des nouvelles du CS Guyane, enfin du Centre Spatial de Guyane. C'est aussi quelques nouvelles des stations spatiales. Alors la station spatiale que l'on connaît avec Thomas Pesquet et puis aussi la station chinoise où il se passe pas mal de choses. Mais pour commencer, nous allons parler des sondes. Il y a deux sondes un petit peu remarquables dont une est en fin de vie. C'est la sonde Cassini-Huygens, qui est parti en 1997.
Oui, pour rejoindre donc la géante planète Saturne, donc un long voyage hein, jusqu'en 2004, et puis arriver donc aux alentours de la planète Saturne, le petit module Huygens s'est détaché pour aller se poser sur Titan.
Donc un voyage quand même, elle est partie en 97, elle arrive sur le site de Saturne en 2004, c'est ça ?
Voilà,
donc c'est une distance, on rappelle la distance de Saturne ou de Saturne au Soleil pour arrondir.
Allez, on va dire 1429,7 millions de kilomètres.
D'accord, donc c'est un milliard.
Voilà, donc c'est pas la porte à côté.
Près d'un milliard.
Donc cette distance qu'on donne, c'est la distance moyenne, hein, puisqu'effectivement, Saturne, dans son périple autour du Soleil, périple qui va durer 29,53 années. Donc cette planète va s'éloigner ou se rapprocher de nous et du Soleil.
Voilà, on rappelle qu'au-dessus de nos têtes, tout tourne, mais rien ne tourne rond. Et donc les ellipses sont parfois, nous amènent un petit peu plus loin ou nous rapprochent les uns des autres.
Oui, en fait. Puis c'est toujours le rapport de déplacement entre la Terre, le Soleil et une planète éventuelle sur laquelle on travaille.
Alors, donc, sonde Cassini-Huygens. Alors, pourquoi Cassini et Huygens, ce mariage ?
La sonde Cassini, donc, qui elle reste en orbite autour de Saturne, et puis le petit module Huygens, qui, comme je vous l'ai dit, est allé se poser donc, en 2005 sur le satellite de Saturne, Titan.
Alors, Titan, c'est un satellite intéressant, qui intéresse beaucoup les hommes.
Alors, donc, justement, ce petit module nous a révélé des mers liquides d'hydrocarbures. Donc, c'est la seule lune de Titan qui contre cette mer un petit peu vraiment peu hospitalière.
Hydrocarbures, il faut entendre pétrole.
Non, tout à fait beaucoup du méthane, enfin il y a des liquides, hein, ce sont de la matière liquide. De choses qui sont peu respirables.
Donc en fait c'est plutôt inhospitalier.
Très inhospitalier, puisque le petit module, une fois qu'il s'est posé, il a perdu toute trace d'émission.
Voilà, les résultats sont connus, la NASA communique.
Alors effectivement, puisque maintenant on a un petit peu de recul, on a eu énormément de photos, d'images lors du plongeon, donc des photos qui ont été dépouillées et qui nous ont apporté un peu cette composition grâce au spectromètre, grâce aux sondes, au radar, à tous les objets qui étaient à bord de ce petit module, qui ont pu donc nous révéler, comme je vous l'ai dit, ces hydrocarbures qui sont présents.
Donc ce module actuellement, il a fait son travail, il est posé sur Titan.
Terminé, hein, voilà. Par contre, la sonde Cassini.
Alors, la sonde Cassini,
elle a fait beaucoup d'orbites donc autour de cette géante Saturne.
On retrouve, Jean-Michel, toujours un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a un véhicule et puis à l'intérieur, alors en l'occurrence Cassini, c'est la sonde, et puis à l'intérieur de cette sonde, on peut trouver effectivement de petits modules qui peuvent descendre, photographier, etc. Donc voilà.
Dans l'exploration planétaire, on a souvent ce genre de choses. Hein. Donc un véhicule transporteur et puis qui va larguer un autre petit véhicule pour observer la mission qui a été prédéfinie.
Donc cette sonde Cassini, on comprend qu'elle est en fin de vie. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté ?
Alors elle était sur Titan, mais elle était sur un autre satellite aussi. À ce jour, on a repéré 62 satellites autour de Saturne.
C'est-à-dire 62 lunes, quoi.
62 lunes, hein, entre de très grosses et de toutes petites. Hein, voilà. Et par exemple, on a pu analyser des geysers d'eau contenant de l'hydrogène sur le satellite Encelade. Donc ces geysers qui ont été photographiés et donc.
Alors là aussi, ces geysers évoquent l'eau. Peut-être, en tout cas du liquide. Alors, et derrière l'eau liquide, il peut y avoir effectivement
peut-être
des traces de vie.
C'est toujours la même chose hein, dans les sondes interplanétaires. On va rechercher donc de belles images d'abord, la composition, et bien sûr, quand on a fait tout ça, on recherche éventuellement des traces de vie.
Voilà, donc au moins deux satellites, Titan, Encelade, qui sont quand même des satellites...
Des grosses lunes de Saturne.
Il y en avait d'autres ?
Alors, on a étudié aussi la dynamique des anneaux de Saturne, parce que ces anneaux de Saturne qui sont constitués de corps rocheux, de corps glacé, et lorsqu'on regarde dans un télescope, on voit bien hein, cette division entre les anneaux, notamment, il y a une très grosse division, Saturne, qu'on appelle la division de Cassini.
D'où le nom de la sonde.
Et il faut le dire aussi que cette sonde, c'est la seule qui est en orbite autour de cette planète. Hein, sur d'autres planètes, on a mis plusieurs sondes en orbite. Autour de Saturne, il y a uniquement Cassini. Hein.
Alors, Saturne, rappelons quand même sa taille, sa composition aussi.
Géante gazeuse.
Quand on dit géante, c'est-à-dire par rapport à la Terre, c'est plusieurs dizaines de fois la Terre.
Plusieurs dizaines de fois la Terre. Et on dit souvent, lorsqu'on fait des observations astronomiques et qu'on observe Saturne, on dit, si on avait une énorme cuvette d'eau... Et si on posait Saturne dans cette cuvette d'eau, elle flotterait.
Ah oui, alors là, c'est une image, effectivement, que les enfants, les scolaires, en plus, reprennent souvent parce qu'ils sont surpris.
On est surpris de ça. Hein. Cette géante planète, il faudrait avoir, bien sûr, une très grosse cuvette. C'est de l'imagination.
Donc, elle est très grosse, c'est du gaz. Mais en fait, très peu dense. Mais très peu dense.
Ouais.
Et effectivement, dans une bassine d'eau, Saturne flotterait, ce qui ne serait pas le cas, bien sûr, de la Terre.
Tout ce qui va se passer maintenant, ce qui est important, c'est entre le 22 avril et le 15 septembre, la NASA a enregistré 22 orbites. Sur ces 22 orbites, alors si tout se passe bien, parce qu'il peut y avoir des risques, lorsqu'on va faire passer la sonde entre les anneaux de Saturne, comme on l'a dit, il y a des corps glacés, des corps rocheux, il y a des risques d'accident, hein, il faut le nommer comme ça. Donc si tout se passe bien, sur ces 22 orbites, on aura des images extraordinaires. Alors déjà, les premières images qu'on a eues, elles sont fabuleuses.
Donc il y a déjà eu un passage, une première traversée.
Il y a eu une première sur le bord des anneaux.
Voilà. En tout cas, l'événement ce mois-ci, c'est quand même Cassini qui traverse les anneaux et qui commence effectivement toute une série d'orbites et de traversées. Voilà. Donc on attend beaucoup, bien sûr, pour en savoir un peu plus.
Oui, souvent, lorsqu'on envoie comme ça un objet interplanétaire, alors quand il arrive, on découvre les premières images, c'est l'émotion, hein, bien sûr, d'ailleurs pour tous ceux qui ont travaillé. Et puis ensuite, il y a le travail, on va dire, routinier, ce qui fait qu'on oublie. Et puis, lorsque la fin de la mission arrive, eh ben, on revient à tout cela et souvent on récupère de fabuleuses images de l'objet choisi.
Donc cette première entrée de Cassini dans les anneaux date donc du 22 avril.
Voilà.
Et la fin de l'histoire
15 septembre.
Au mois de septembre.
Voilà.
Et donc là, à ce moment-là, Cassini plonge
carrément sur Saturne.
Dans la planète.
Parce qu'il n'y aura plus de carburant.
Voilà. Donc finalement, une sonde qui a plutôt bien servi.
Tout à fait. C'est une mission qui a très très bien réussi.
Jean-Michel, toujours ce mois-ci, donc une deuxième sonde, décidément, c'est un mois riche pour les sondes, c'est la sonde LRO, c'est-à-dire...
Lunar Reconnaissance Orbiter.
Alors ça, c'est une sonde toujours de la NASA,
NASA,
qui est partie, elle, en 2009.
2009,
donc, alors... Bah, à chaque fois, on voit effectivement que les sondes, enfin les missions avec des sondes, c'est toujours une histoire un petit peu longue, on est dans la durée.
Hein. Oui, mais donc là, cette mission était prévue pour durer un an.
Ouais.
Et puis comme les résultats sont bons, donc
ça continue.
Ça continue.
Donc elle est toujours active.
Alors disons que la Lune, bon, c'est plus proche. Hein, donc pour aller sur la Lune, c'est quelques jours. Hein. Alors là, la sonde, bien sûr, s'est mise en orbite autour de la Terre pour avoir une petite assistance gravitationnelle.
Voilà.
On arrive sur la Lune, on se met en orbite autour de la Lune et on commence, une fois que la recette en vol, hein, comme on dit, est acquise, que tout se passe bien.
C'est-à-dire qu'on maîtrise le tour de la Lune.
Tous les paramètres, voilà. Comme on dit souvent, tous les paramètres sont nominaux.
Alors, le tour de la Lune, ça veut dire que l'on voit, bien entendu, la face visible, celle que l'on connaît sur Terre, mais aussi la face cachée.
Tout à fait. Donc, puisque on revoit toujours de la Terre la même face. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Hein, toujours la même face de la Lune, puisque ça tourne à peu près à la même vitesse que nous. Et donc, ce qui se passe derrière, on le voit pas souvent. Alors, cette sonde lunaire à reconnaissance orbitaire est équipée d'engins, de radars, de caméras, et qui a permis des photos extraordinaires de cette face cachée pour voir ce qui se passe de l'autre côté, pour peut-être un jour y aller voir.
Alors, est-ce qu'on apprend encore sur la Lune ?
Eh bien, on apprend toujours sur la Lune, hein, puisque à travers toutes les missions Apollo, à travers toutes les photos qui ont été faites, et au fur et à mesure que la technique avance, hein, puisque les moyens informatiques se sont beaucoup développés ces dernières années, donc la précision des caméras, la précision des altimètres, donc des caméras qui travaillent dans plusieurs bandes pour avoir des images réelles, des images en fausse couleur, des images infrarouges. Donc, et tout ça après va être composité sur Terre pour avoir une image, par exemple, de cette face cachée qui est extraordinaire.
Donc il faut entendre par caméra tout un système, j'allais dire, d'observation, d'interprétation aussi des sols, des sous-sols, des reliefs, de la matière.
Alors, effectivement, à travers ces altimètres, ces radars, on recherche de l'eau, par exemple, sur la Lune.
Alors, recherche d'eau. Est-ce qu'il y a à boire sur la Lune ?
Pour l'instant, non, je crois
pas d'eau, en tout cas.
Peut-être que si, peut-être que non. Les scientifiques sont toujours dans les sous-sols, peut-être. On a parlé d'autres métaux, enfin de l'hélium-3, par exemple, qui serait présent sur la Lune. Donc, vous voyez que cette Lune continue toujours de nous interroger.
En tout cas, on a déjà parlé de la constitution de la Lune, de l'origine de la Lune, qui serait dû à un énorme choc entre la Terre, voilà, et qui serait composé de matériaux, enfin de matière de la croûte terrestre, essentiellement
c'est
de la croûte terrestre.
C'est la théorie qui est aujourd'hui la plus privilégiée.
Voilà. Hein. Est-ce que ce type de mission confirme, bien entendu, je pense oui, mais est-ce qu'on découvre des choses qui nous interpellent, qui nous font douter peut-être ?
Effectivement, il y a par exemple un instrument qui s'appelle neutron détecteur. Donc neutron détecteur, ça veut bien dire, oui, ça porte bien son nom, hein, qui va faire peut-être des radios, on va dire, comme on va essayer de l'expliquer comme ça simplement, hein, des radios de la croûte lunaire pour essayer de trouver des choses qu'on n'a pas pu trouver, ou des choses qu'on a déjà trouvées, mais on va essayer de confirmer. Vous voyez, donc, cette Lune qui nous interroge toujours.
Alors, la NASA communique là aussi toujours. Alors, effectivement. Grand public peut-être. Est-ce que nos amis. Si on se penche sur le site de la NASA, est-ce qu'on peut voir des petites choses,
hein? Tout à fait. Donc, sur le site de la NASA, si vous allez, par exemple, on parlait de Cassini tout à l'heure, vous allez sur Lune à reconnaissance orbiteur, vous allez sur d'autres missions qui sont lancées. Effectivement, sur le site de la NASA, que ce soit en anglais ou en espagnol, on a les deux langues pour travailler sur ce site. Et là, on a des choses qui sont à la portée donc du public. Et puis vous avez des choses pour teachers, students, donc les professeurs, les élèves. Hein. Voilà, vous allez dans ces petites pages, ces petits onglets qui vont permettre, au fur et à mesure du site de la NASA, d'aller creuser la recherche que l'on souhaite. Mais alors effectivement, après c'est le labyrinthe, voilà. Et puis on peut obtenir de bons résultats.
Voilà. Donc à vos recherches. Thank you. Alors maintenant, comme chaque mois, des nouvelles de l'ISS de Thomas Pesquet. Donc ce mois-ci, bien toujours des missions de ravitaillement.
Des missions de ravitaillement avec dernièrement un cargo Cygnus hein, qui a porté quelques tonnes de fret, d'eau, d'expériences scientifiques pour les astronautes qui sont en orbite.
Bon, et donc aujourd'hui, 5 personnes à bord et pas 6.
Et pas 6, donc parce que du côté russe, on a décidé de faire quelques économies sur les hommes en présence autour de la Terre. Donc le dernier voyage, donc parti le 20 avril, a monté simplement 2 astronautes, un russe et un américain.
Voilà. On rappelle que les places sont chères dans l'ISS et qu'il ne suffit pas de vouloir, il faut payer aussi.
Il faut payer. Alors justement, les places sont tellement chères que quand on regarde le calendrier jusqu'en fin 2018, on s'aperçoit que du côté européen, on aura simplement un Italien et un Allemand, donc Paolo Nespoli et Alexander Guest, qui sont prévus jusque dans le calendrier fin 2018.
Fin 2018.
Donc oui. Si Thomas Pesquet a envie de repartir, comme il disait cette semaine, si on me demandait si j'étais volontaire pour aller sur Mars, je lèverais le droit tout de suite. Donc il faudra peut-être qu'il patiente un petit peu.
La Lune ou Mars, il faudra choisir. Et Thomas Pesquet, justement, donc, dans ses missions, bon, il a fait des sorties extravéhiculaires. Là, je crois qu'ils ont plutôt travaillé sur ce nouveau module.
Alors, voilà le module gonflable, BILM.
Alors, donc, un mot quand même, on rappelle un petit peu.
Alors, c'est une structure gonflable. Hein, voilà. Bon, pas celle qu'on voit pour les jeux d'enfants dans nos parcs d'attractions. Là, hein. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus costaud, mais la conception est la même, avec des tissus, des membranes beaucoup plus épaisses. Et ce module a été gonflé donc sur la station spatiale et est en orbite donc avec la station. Et il est fermé. Donc il est pressurisé, mais il est fermé, donc avec une température qui est beaucoup plus basse que celle communément que les astronautes
elle-même.
Vivent dans la station elle-même. Et de temps en temps, donc les astronautes vont faire une petite incursion pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a des expériences scientifiques. Alors notamment, Thomas Pesquet avec Peggy Whitson ont fait il y a quelques jours une petite incursion dans ce module pour voir si tout fonctionne bien. Et il y avait une image qui était intéressante parce qu'on voyait Thomas Pesquet revêtu d'une petite peau, on va dire, une espèce de petite combinaison, un gros gilet, à dire, qui s'appelle le skin suit. Dans le skin suit, vous voyez, il y a le mot peau en anglais. Donc c'est simplement une tenue qui permet d'étudier la microgravité, les douleurs et les étirements de la colonne vertébrale. Et Thomas Pesquet disait lui-même qu'il aurait actuellement pris 2 cm au cours de son périple.
Ah,
voilà, ce qui ne l'empêchera pas de se mettre dans le Soyouz pour revenir. Il a fait des essais aussi.
Bon, qu'il puisse sortir quand même, parce qu'on rappelle notre ami Léonov qui a eu quelques problèmes pour rentrer dans son
c'était pas la même
dans sa capsule. Bon, ce module BIM quand même, j'allais dire pour les Hiverniens, il évoque quand même le Bibendum.
C'est pas
quand même un module Michelin, non?
Non, c'est pas Michelin, bon, c'est une société américaine, donc Big Love, donc cette société. Et donc ce module est accroché, il y a déjà depuis 8 mois. Et donc, lorsque tout sera terminé, on le précipitera dans l'atmosphère, il se consumera dans l'atmosphère.
Donc après l'ISS, la station chinoise, puisque les Chinois sont toujours là-haut, on rappelle qu'elle n'est pas habitée.
Tout de suite,
et
non.
Et qu'elle est à peu près un peu plus bas en altitude.
Oui, quelques kilomètres.
On rappelle que l'ISS est à 400 kilomètres.
Et à 380, les chiffres donnés par la Chine. Donc sur des orbites qui sont différentes, hein, puisque leur station essaye de passer le plus possible sur leur pays.
Oui, et puis vite de se rentrer dedans aussi,
oui.
Peut-être. Alors, donc ça, c'était le 22 avril. Le 22 avril, ravitaillement, toujours, carburant, et puis quoi d'autre? On parle toujours du carburant. Qu'est-ce qu'on peut monter?
Alors, on va dire Tiangong. Hein. Tiangong, en chinois, ça veut dire palais céleste. Hein.
Palais céleste.
Les Chinois ont leur palais céleste en orbite. Et c'est Tiangong 2, hein, parce qu'ils avaient lancé il y a quelques années Tiangong 1, qui ne sert plus, et qui, dans quelques mois, quelques années, se consumera dans l'atmosphère. On attend ça dans les années à venir. Hein. Bon, apparemment, il y a peu de risques que ça nous tombe sur la tête.
Alors aujourd'hui, cette station, elle ressemble à quoi?
C'est un ensemble de gros modules, oui.
Voilà. Hein,
et donc, les taïkonautes, puisque ce sont les astronautes chinois qui se nomment comme ça, est prévu d'y faire des séjours d'une trentaine de jours.
D'accord. Donc, c'est deux modules, je crois, pour le moment.
Alors, pour l'instant, c'est des tuyaux qui sont rassemblés.
Voilà,
toujours la même conception.
C'est toujours le mécano.
Le mécano de l'espace, des gros tubes qu'on raccroche les uns aux autres.
Donc, on sent effectivement qu'il y a une ambition chinoise, hein, bien entendu. Cette station, elle est amenée à grandir. Ils annoncent des choses, les Chinois, là-dessus.
Pour vous dire tout de suite, le module est de taille équivalente à son prédécesseur. C'est-à-dire, c'est 10,40 mètres de long, 3,40 mètres de large et deux panneaux solaires qui ouvrent à 8,40 mètres d'envergure. Mm-hmm. Et donc, c'est pas très, très gros. Et donc, comme vous le disiez, le vaisseau Shenzhou, qui est monté du ravitaillement, donc prévu pour accueillir dans quelques temps des taïkonautes.
Voilà. C'est pas l'espace, mais c'est le ciel. La Chine vient aussi effectivement de tester, de faire voler son premier avion, son premier cargo. Je crois qu'il s'appelle le C-919 et c'est un concurrent direct de Boeing et d'Airbus.
Alors
voilà, la Chine.
Que ce soit dans l'atmosphère ou au-dessus de l'atmosphère, la Chine est
très présente et ambitieuse.
Oui, ambitieuse et puis technologiquement, progresse très très vite. Hein.
Alors, des nouvelles peut-être du Centre spatial de Guyane. Alors, on rappelle qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'événements en Guyane qui ont contrarié le départ, deux départs en plus.
Donc,
et je pense que le Ariane a décollé aussi récemment.
Alors, le vol Ariane
début mai,
236, le 4 mai, donc à 22h50 exactement. Hein. Donc, Ariane 5 a lancé deux satellites. Le SGDC, donc c'est pour le Brésil. Et le Koreasat, donc pour la Corée, hein, comme son nom l'indique. Alors Koreasat, 3 tonnes 680 et SGDC, 5 tonnes 730. Donc deux satellites qui ont été mis en orbite pour servir ces pays. Donc reprise des vols Ariane, c'était le vol 236.
La mission suivante, c'était la 237.
Début juin, on va dire que les événements de Guyane ont retardé un petit peu le programme, mais que tout semble rentrer rapidement dans l'ordre.
Alors 237 annonce lui aussi deux satellites, dont un quand même un peu innovant, puisqu'il s'agit, je crois, du premier satellite électrique européen.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur
Effectivement, on va essayer, grâce à ses panneaux solaires, grâce à l'énergie qu'il va pouvoir stocker grâce au soleil, essayer de fonctionner avec de moins en moins de carburant. Parce que chaque satellite qui est lancé a toujours une petite réserve de carburant pour rehausser l'orbite, pour ajuster la trajectoire. Donc, ça sera le premier satellite classifié tout électrique.
Alors, on rappelle quand même que le retard qui a été pris, ça s'est relativement bien passé d'un point de vue social. Je veux dire, il n'y a pas eu d'occupation, il n'y a pas eu de menace du site. Tout ça, ça s'est bien passé. Simplement, quand même, le report de ces deux missions a coûté, j'ai cru entendre, 500 000 euros par jour.
Parce que bon, il faut savoir que au-delà d'Ariane Espace et du centre, le CSG, Centre Spatial Guyane de Kourou, il y a toute la chaîne en dessous des participants dans tous les pays et ça engrange beaucoup de monde.
Jean-Michel, pour terminer cette émission, quelques informations sur l'association Orion, donc l'astronomie de Haute-Loire, et qui est en train de lancer sa saison estivale, en particulier ses soirées publiques d'été à l'observatoire du BETS à Saint-Julien-Chapteuil.
On va dire c'est parti, donc puisque nous démarrons le 3 juin, samedi 3 juin, mardi 4 juillet, mercredi 12 juillet, vendredi 21 juillet. vendredi 28 juillet. Et donc là, ce sera la nuit des étoiles, hein, 28 et 29 juillet, nuit des
Alors,
étoiles.
C'est un événement national auquel voilà. s'associe bien entendu tous les clubs d'astronomie et le groupe Orion. Ce sont voilà. des soirées gratuites, il y a généralement beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc vous pouvez retenir la date, sans quoi il y a aussi toutes les soirées publiques.
Alors après on recommence le 2 août, le 10 août, le 16 août et le 22 août, mais bien c'est difficile de retenir à cela ouais. lorsqu'on écoute la radio, donc vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet www.royon43.fr.
Voilà, et en particulier vous y trouverez effectivement le thème des conférences qui sont proposées à chacune des soirées. On rappelle qu'il y a toujours dans chaque soirée deux conférences proposées hein, voilà. au public en fonction de leur intérêt ou voire peut-être de la difficulté aussi, certaines voilà. sont plus exigeantes que d'autres.
Ces conférences sont en cours d'élaboration, elles ne sont pas en ligne encore, mais ça ne saurait tarder, donc d'ici fin mai, début juin, toutes les informations pour l'été seront en ligne sur notre site.
Voilà, c'est dit, merci Jean-Michel, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité, et à bientôt.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.